Le 7 janvier dernier, le planning familial des Bouches-du-Rhône était dans la rue, les pieds dans la neige, pour mener une action symbolique. Celle de fermer les portes de son local devenu trop vétuste et d'accueillir son public dans la rue. Peu de temps avant leur fermeture, je me trouvais dans leurs locaux et il y avait encore le chauffage. Alors, vie et action du planning familial à Marseille, avant la fermeture de ses portes, bien sûr. Rencontre avec Claire Ricciardi, conseillère et présidente du planning familial des Bouches-du-Rhône. Nous sommes au planning familial à Marseille, le planning familial des Bouches-du-Rhône. Il y a eu le film de Claire Simon qui vient de sortir, Les Bureaux de Dieu, dans lequel on assiste à des... C'est un docu-fiction. On assiste à des entretiens et on peut voir un peu qu'est-ce que c'est le planning familial. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont découvert avec ce film votre action. Comment fonctionne ce planning familial ici? Je crois savoir que c'est pas très facile. Malgré la notoriété du film, les problèmes restent les mêmes pour vous. Et à la rentrée, début janvier, il va y avoir des petites actions.
Alors, c'est dans un vieil appartement au troisième étage, c'est connu, hein, donc il y a beaucoup de gens qui viennent, puisqu'il y a presque 5000 entretiens par an, et je crois qu'il y a 2000 consultations médicales, hein, puisqu'il y a non seulement les entretiens que font les conseillères, qui sont donc des moments de discussion avec la personne qui vient, sur la question qui l'amène, alors c'est souvent sur les questions de contraception, hein, de personnes qui veulent commencer la contraception ou qui la poursuivent. C'est aussi souvent sur des questions de grossesse non désirée, donc des personnes qui sont enceintes et qui viennent voir comment elles pourraient faire pour arrêter cette grossesse. Donc nous, on ne fait pas d'avortement ici, mais on les oriente, on connaît très bien tous les acteurs, les médecins qui le font en ville, les hôpitaux. Et donc on a essayé de faire un réseau pour que cet acte soit le plus facile possible à y accéder. Et c'est vrai que la troisième raison qui amène les gens ici, c'est souvent de savoir si on est enceinte, c'est-à-dire de venir faire un test de grossesse, parce qu'on se dit, j'ai fait quelque chose, j'ai eu des rapports, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Donc c'est les trois cas les plus... des motifs des personnes qui viennent ici, c'est ça. Alors après, derrière ces cas, comme on peut le voir aussi dans le film peut-être de Claire Simon, c'est que quand on commence à parler de choses intimes comme ça, ben, les gens racontent des histoires, et c'est ça qui est un petit peu fascinant, et qui est une découverte dans le film, et qui arrive toujours ici, quand il y a des gens qui sont stagiaires, qui assistent aux entretiens, qui sont impressionnés comme les gens racontent ce moment de vie que souvent on ne raconte pas... Bah, qu'on ne raconte pas parce que c'est l'intimité, et que l'intimité, on la raconte que très peu. Quoi.
Aujourd'hui, vous veniez nous voir pour quel
droit ? Pour faire un test de grossesse.
D'accord.
Je peux vous demander votre âge ?
21.
Alors, dites-moi, vous avez un doute ? Vous avez un retard de règles ?
Ben, moi, je devais être enceinte, mais ça ne marche pas. Alors là, je veux voir si
ça a marché.
Voilà.
Alors, on est dans un très bel appartement bourgeois du centre-ville. Bourgeois, ça veut dire qu'il est vieux. Ça veut dire que l'électricité doit avoir l'âge de l'appartement. Les fenêtres ont l'âge de l'appartement. Les tuyauteries ont l'âge de l'appartement. Et à l'époque où ça a dû être construit, il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y en a toujours pas. Donc, c'est déjà des inconvénients relativement importants. En termes, il n'y a qu'une... Je ne sais pas si je fais une description, mais... Et en plus, on est très nombreux. C'est-à-dire qu'on fait non seulement ces fameux entretiens qui ont été rendus célèbres, on va dire, par le film Les Bureaux de Dieu, mais on a également énormément d'actions à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on fait des interventions en collège, on fait des interventions dans les centres sociaux, on fait des formations, voilà, j'aime pas ces dire dans les maisons d'handicapés. Bon, et tout ce travail-là, ben, il a besoin d'une structure pour, avec des ordinateurs, photocopieuses, secrétaires, un comptable, une directrice. Et donc l'appartement a beau être relativement grand, on est devenu extrêmement à l'étroit. En plus, on est dans un immeuble d'habitation et en dessous, donc il y a des gens qui vivent. Et c'est vrai que près de 8000 personnes qui passent dans l'année, ça ne peut pas être complètement invisible. Et donc on a énormément de problèmes avec les voisins. Même si on essaie d'être le plus discret possible, c'est compliqué.
chien en montant la chaudière. C'est... Vous avez de la chance, aujourd'hui elle marche, parce qu'il y a 2 jours on était aussi en panne de chaudière, la chaudière qui coulait, le seau en dessous pour récupérer l'eau.
Pas de chauffage non plus.
Pas de chauffage. Donc, obligé de recevoir avec les manteaux. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Ça fait des fuites chez le voisin qui est pas content en dessous. Voilà. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir recevoir.
Vous avez un beau plafond.
Meilleure condition. Oui, on a toujours peur que ça nous tombe sur la tête. D'ailleurs, des fois, ça tombe dans le couloir, c'est pareil aussi. 2-3 fois, on a eu des morceaux qui sont tombés.
Au dernier municipal, M. Godin, au mois de juillet 2007, il nous a promis qu'il nous devait soutien et remerciement pour notre action. On allait avoir un local, donc on était presque à choisir la peinture. Hein. On était à choisir la place des prises. Quand ont eu lieu les élections, et le lendemain des élections, on nous a dit ce local n'est pas accessible aux handicapés, n'est pas conforme à l'accès aux handicapés, on va dire, et vous ne pourriez pas y avoir, on ne vous le donnera pas. Et depuis, silence radio, on n'a plus rien.
Parce que quand on met un mot en disant oui, faites attention, pas faire de bruit pour les voisins, etc., il dit bon, je sais que vous faites pas. C'est sûr que c'est une des personnes qui passent dans ta cage d'escalier. Oui, tu trouves les préservatifs dans la cage d'escalier. C'est nous qui faisons le ménage pour tout le monde. Hein.
Alors ça date de 1972, c'était le tract de Carpentier qui s'appelait « Apprenons à faire l'amour » qui était distribué au lycée. Où il y avait écrit, ça racontait l'orgasme, ça racontait... Je ne l'ai pas relu depuis longtemps. Mais bon, ça s'appelait comme ça « Apprenons à faire l'amour », c'était un truc, jamais personne n'avait parlé de ça. Donc là, maintenant, vous imaginez qu'on n'est plus dans le même contexte, c'est-à-dire que vous avez la radio, vous avez des journaux, vous avez les titres des magazines qui disent comment la faire jouir ou comment le faire jouir. Je veux dire, il y a au contraire une exposition absolue de la question sexuelle. Et en même temps, il y a un secret aussi qui reste. Il y a les images pornographiques qui sont extrêmement facilement accessibles, qui tiennent lieu un petit peu d'éducation à la sexualité. Ils n'ont pas été créés pour ça, puisque c'est les adultes qui les créent pour leur propre satisfaction. Et en même temps, les jeunes s'en servent parce qu'ils se disent comme ça, je vais voir ce qu'il faut faire ou peut faire. Mais c'est vrai que du coup, ces choses-là, ces images-là, il faut les parler. Parce que sinon, on pense que ce qu'on voit dans les films pornographiques... Alors, sans parler en plus du fait que dans les films pornographiques, le plus souvent, la femme a une image absolument dévalorisée, soumise, toujours prête, etc. Donc, je veux dire... Il faut absolument parler de ce qui est transporté par ces images-là, nouvelles qui sont... Donc c'est vrai que ça n'est plus la même chose dans ces termes-là. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup les jeunes qui disent « Oui, alors je fais tout ce qu'il faut, je fais les préliminaires, etc. » Donc il y a une espèce de savoir... Même parce qu'on dit bien, on dit le niveau baisse, mais on sait bien que dans toutes les matières, en fait, le niveau est beaucoup plus élevé que ce qu'il était, je ne sais pas, il y a 20-25 ans. Et en termes de savoir sexuel, là aussi, c'est vrai que quelque part, il y a des savoirs, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de cette rencontre, hein, du fait qu'on est des hommes et des femmes, et que, toujours en France, il y a une différence dans la construction des hommes et des femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et c'est ça, l'éducation à la sexualité. Donc, effectivement, ça a changé, et ça, c'est toujours nécessaire, si ce n'est plus.
Vous en avez déjà fait?
Ouais.
Vous avez un petit peu...
Ben, j'étais enceinte une fois, mais je l'ai perdue après. Alors, depuis, je suis plus retombée enceinte.
C'était quand?
C'était vers...
Combien de temps, à peu près?
6 mois.
Vous étiez venu le faire ici, ce test, déjà? Vous l'avez fait en pharmacie?
Je l'avais fait en pharmacie, mais j'étais pas trop sûre. Alors, je suis venue le faire ici.
Voilà. On va attendre. Hein, ça passe une première fois. On attend que le fond redevienne bien blanc. À ce moment-là, on voit s'il n'y a qu'un trait ou s'il y a 2 traits. Vous aimeriez bien.
Ouais, mais ça marche pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire.
Ah, il faut laisser faire la nature.
Hein. Voilà, exactement. Ça n'a pas l'air, hein?
Non.
Pas du tout. Hein.
A priori, c'est pas ça. Mais ça veut rien dire, hein. Ça peut être un peu trop tôt aussi.
Notre devoir, je ne sais pas quel mot trouver, c'est on ne juge pas, on écoute et on prend les personnes où ils en sont. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui dit, voilà, je ne prends pas la pilule, je ne mets pas le préservatif, on ne dit pas, oh, mon Dieu, vous êtes folle, vous êtes tombée enceinte. Et ça, ce côté non-jugement et accompagner les personnes où ils en sont, je pense que c'est ça qui fait aussi notre succès, c'est-à-dire qu'on peut venir dire trois fois, je viens prendre la pilule de demain, parce que oui, ben, trois fois, je n'ai pas pu faire autrement, et je viendrai trois fois, et alors je répète encore une fois, la pilule de lendemain ne rend pas stérile, elle ne donne pas le cancer, et les gens qui disent ça en sachant très bien que c'est faux, parce qu'on ne donnerait pas la pilule du lendemain sans ordonnance à des jeunes filles mineures en pharmacie gratuitement. Enfin, on fait beaucoup de trucs pas très surveillés, mais enfin quand même. Donc ça ne fait rien. Simplement, les gens disent ça en se disant « si je lui dis que ça va donner le cancer, elle va faire autre chose ». Non, non. On va dire « pourquoi vous en êtes à prendre la pilule du lendemain ? Qu'est-ce que c'est qui fait que vous ne pouvez pas faire autre chose ? Eh bien, si vous pouvez faire que prendre la pilule du lendemain, prenez la pilule du lendemain, c'est mieux que rien. » Donc, je veux dire, c'est ça notre... Et ça, je crois que c'est bien reçu. Et d'ailleurs, on ne le fait pas parce qu'on est gentil, on le fait parce que c'est une attitude efficace.
À la base, j'ai une formation juridique, j'ai fait des études de droit. Donc, et puis, je suis née à une époque où il y avait tous ces mouvements qui commençaient, hein, puisque le planning a 50 ans. Que j'ai à peu près cet âge-là, que dans les années, au moment où il y a eu la loi Veil, 75, j'étais étudiante, donc j'ai suivi aussi cette évolution-là. Et puis bon, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et puis à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu envie de faire un peu autre chose, de sortir, et puis cette formation de conseillère ici m'avait intéressée, donc je me suis lancée dans ça, et l'accompagnement des femmes et des jeunes filles, même des couples, puisqu'on reçoit de plus en plus de couples aussi.
Est-ce que vous observez des choses comme ça, des réflexions que vous faites personnelles par rapport à ce que vous entendez ?
Une évolution. Ben là, tout à l'heure, on disait que pour les jeunes filles, on sent un petit peu... comment dire, on a l'impression qu'on recule un peu quand même, hein, dans l'avancée des droits. Que tout ce qu'on avait acquis, ben, c'est un peu à remettre en question au niveau justement de notre corps, de l'accès même à l'IVG, à une contraception gratuite qui ne l'est pas vraiment. Hein. Elle est pour les mineurs, mais après pour les majeurs, c'est quand même quelque chose d'assez cher. Et puis le poids des traditions et de certaines cultures sur la virginité des filles notamment, c'est un discours qui ressort de plus en plus, on le sent auprès des jeunes. Ça c'est compliqué aussi à gérer des fois, se dire qu'on a eu de superbes avancées, qu'en même temps là... sans que ça recule un peu et qu'il faut continuer à défendre ses droits et quitte, comme l'a dit une de nos directrices, quitte à reprendre la clandestinité et la lutte, quoi, beaucoup plus.
La clandestinité
C'est-à-dire qu'au départ, on était dans une certaine illégalité, quoi, plutôt que clandestinité. Une illégalité.
Vous êtes à la limite des
fois. On est à la limite. Mmh. Parce qu'on reçoit aussi des publics précaires, fragiles, qui sont dans des situations difficiles.
Oui, par exemple, quand vous recevez un sans-papier, à la limite, vous n'avez pas le droit de l'aider.
Mais si, on l'aide.
Oui, bien sûr. Mais
ça serait grave si on ne pouvait pas aider.
Je sais, mais c'est là justement que vous êtes un peu dans la clandestinité, oui, entre guillemets. C'est parce que normalement, vous ne devriez pas avoir, vous devriez pas l'aider légalement.
Oui. Mais c'est pas pareil pour les personnes qui se trouvent en délai dépassé pour les interruptions de grossesse. Non. On donne des adresses, on les aide quand vraiment elles ne peuvent pas. Enfin, on essaye au moins de trouver quelque chose pour les accompagner, qu'elles puissent réaliser ce qu'elles veulent.
Mais vous êtes toujours motivée.
Bon. plus que jamais.
Merci.
Qu'est-ce qui va se passer exactement début janvier là?
Alors, sur la question du local, si vous voulez, on a atteint un point où ça devient... On a envoyé des lettres, ça fait 2 ans qu'on nous dit oui, mais oui, on cherche, ne vous inquiétez pas. Donc on se rend compte que malheureusement, une fois de plus, si on ne fait pas un coup de force, on n'arrivera à rien. Surtout dans une période où tout le monde dit c'est difficile, la finance, les budgets, la ville a placé son argent, je ne sais pas trop où. Bon, donc du coup, on se dit, ces locaux sont dangereux. Eh bien, on va arrêter de recevoir le public. Donc, on ferme au public à partir du 7 janvier. On continuera à répondre au téléphone. On donnera le maximum de réponses par téléphone. On ferme au public le 7 janvier. Et le mercredi 7 janvier, on tiendra notre dernière permanence. Donc, les bureaux de Dieu descendront dans la rue et seront au 13 boulevard d'Athènes, mais devant la porte. Donc, il y aura la consultation médicale, il y aura les conseillères qui recevront devant la porte pour dire qu'on ne peut pas continuer à travailler dans ces locaux, malheureusement, parce qu'ils sont devenus complètement inadaptés à ce qui se passe ici.
Numéro vert pour finir.
Alors, le numéro vert, c'est le 0800 105 105. C'est gratuit à partir d'un poste fixe, mais à partir d'un portable, on paye la communication.
Merci beaucoup.
De rien.
Claire Ricciardi, conseillère et présidente du planning familial des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, le planning familial attend une réunion en février avec ses partenaires, d'une part pour un nouveau local et d'une autre part pour préserver le travail d'accueil et de conseil mis à mal aujourd'hui par les annonces de restrictions du budget santé sociale de l'État pour 2009. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur leur site pour vous informer ou les soutenir, bien sûr, au www.leplanning13.org.